nous a montré comment vivre le véritable amour. C'est en aimant le premier que nous aimer tous les yeux. Aimez-vous les uns et les autres, comme Jésus nous a aussi aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie.
Fasse récolter ce que vous avez semé l'année passée. Amen. Ça, c'est dans la logique. C'est pas vrai? C'est comme ça. Et que cette année vous soit pour vous une année où Dieu vous fait miséricorde si vous avez semé des mauvaises choses et qu'il vous pardonne afin que vous puissiez récolter quand même des miracles et des belles choses. Que Dieu vous bénisse. On va lire Luc chapitre 22, 28, 32. C'est Jésus qui parle et qui dit aux 11 disciples, vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez, que vous buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Pouvez-vous asseoir, mes frères et sœurs. C'était lors du dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples et Judas était déjà sorti, voilà qu'il se retrouve juste avec les 11 et il leur dit cela. Mais pourquoi? La réponse est dans le texte, mais il faut se poser la question. Pourquoi Jésus dispose-t-il du royaume pour ces 11-là? Eh bien, parce qu'ils ont persévéré dans ses épreuves. Dans ses épreuves, à lui. Mais est-ce que les disciples avaient conscience d'avoir persévéré dans les épreuves de Jésus? De quelles épreuves Jésus parlait-il? Des épreuves qu'il avait eues, lui, durant toutes ces années sur cette terre. Et... les disciples n'avaient-ils pas eu leur épreuve? Évidemment, on pourrait se dire, voilà, parce qu'ils ont suivi Jésus, ils ont été éprouvés, c'était leur épreuve. Non, Jésus ne regarde pas ça comme ça. Et il faut qu'on regarde comme Jésus regarde. Il faut arrêter de regarder avec nos yeux comme monsieur et madame tout le monde. Nous ne sommes pas monsieur, madame tout le monde, nous sommes des fils et des filles de Dieu et on regarde comme notre Père regarde. Jésus ne regarde pas ce qui se passe sur la terre de la même manière que les gens de ce monde. Vous pensez à vos épreuves. Vous pensez que vous êtes éprouvé. En fait, c'est Jésus qui est éprouvé. En fait, c'est lui qui souffre. Vous croyez que c'est votre combat? Eh bien, vous vous trompez. Je vous dis ça ce matin pour vous aider à vous sortir de cette tristesse, de cette torpeur dans laquelle peut-être vous êtes tombé à cause d'un piège, d'un mensonge. C'est pas votre épreuve, c'est celle de Jésus. Ce qui vous arrive, c'est son combat. Ce qui vous arrive, ce sont ses difficultés à lui. L'autre jour, je vous prêchais, Jésus vit en vous. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. C'est lui qui vit en vous. Et il dispose du royaume en votre faveur parce que vous persévérez dans son combat. Mais votre combat, mon combat, votre combat, prend une grande valeur quand on a conscience que ce n'est pas le nôtre, mais c'est celui de Jésus qui vit en nous. Amen. Est-ce que ça vous donne un peu de force, d'une intelligence qui vous donne un peu de force? Vous vous battez pour sa cause. Quel est votre but, sinon son but? Les premiers disciples, il nous est dit dans les Actes qu'ils étaient un seul cœur, une seule âme. Pourquoi? Mais parce que Jésus était le cœur de cette communauté. C'était le cœur de Jésus. Jésus vivait dans chacun et chacune de ces personnes. Et il n'y avait qu'une âme, qu'un être, c'était Jésus. Qu'une souffrance, c'était celle de Jésus. Qu'un but, c'était celui de Jésus. Qu'une joie, celle de Jésus. Amen. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Ça signifie quoi? Que ça appartenait à Jésus. Et il avait organisé de façon à ce qu'au travers des apôtres, chacun puisse recevoir selon ses propres besoins. Mais ça signifie aussi que nul ne disait que ses épreuves étaient les siennes. Et même s'il ne le disait pas, c'était compris comme cela. C'était quelque chose qui était intégré et qu'il faut que vous intégriez aussi. Vous êtes assez mûr maintenant spirituellement pour comprendre que ce n'est pas votre combat, c'est le combat de Jésus que vous menez. Les épreuves étaient mises en commun parce qu'elles étaient les épreuves de Jésus. Ce que vous faites au plus petit, c'est à qui que vous le faites? C'est à... Elles étaient l'épreuve du seul cœur qui battait dans la communauté, c'était le cœur de Jésus. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas de la poésie, c'est une réalité. C'est ça être spirituel, c'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est pas de trembloter, ou de rouler les yeux, ou de tomber par terre, ou que sais-je. La vraie spiritualité, c'est quelque chose de très pragmatique. Parce qu'il y a un monde spirituel dans lequel nous sommes invités à entrer et à nous comporter d'une manière différente des comportements que nous avions dans le monde non spirituel. Il nous faut avoir conscience que ce que nous appelons nos épreuves ont un double pouvoir. Celui de glorifier Jésus-Christ ou celui de le déshonorer. Pourquoi je dis ça? Parce que ça dépend de notre comportement. Ça dépend tout de notre comportement. Quel comportement avez-vous au sein des épreuves de Jésus? C'est ça. Qui le glorifie ou qui le déshonore? Les 11 ont persévéré dans les épreuves de Jésus et Jésus leur assure, c'est pour ça, c'est parce que vous avez persévéré dans mes épreuves que je dispose du royaume en votre faveur. Comment s'est passée la chose? Ça s'est passé... Comme lui, il a aussi reçu, comme lui aussi, il a pu disposer du royaume, il leur permet d'en disposer. Comment est-ce que Jésus a pu disposer du royaume? Parce qu'il a persévéré dans les épreuves de son Père, c'est-à-dire du Créateur. Il a tout abandonné, il est venu sur cette terre pour pouvoir combattre le combat qui était bon pour son Père. Et ses souffrances étaient celles de son Père. Alors son Père, voyant qu'il persévérait jusqu'au bout dans les épreuves, lui a donné la possibilité de disposer du royaume. Le Père a disposé de son royaume pour son Fils, et de la même manière que le Père a envoyé son Fils, maintenant le Fils nous envoie. Vous voyez? Avec les mêmes choses que lui, il avait, nous pouvons aller. Les 11 avaient une place absolument particulière, on n'aura pas cette place-là. C'est la leur. Mais tous ceux qui auront persévéré dans les épreuves de Jésus auront aussi une part bien définie dans le royaume de Dieu, une part qui sera la leur. Quelle sera votre part dans le royaume de Dieu? Elle sera la mesure de votre capacité d'avoir persévéré dans les épreuves de Jésus ici. C'est pas magnifique ça? Ne pensez-vous pas que c'est extraordinaire ce que Jésus est en train de nous dire par ce passage qu'on peut lire et puis qu'on peut ne pas comprendre. Ne pensez pas que ce passage ne concerne que les 11 apôtres. Les 11 avaient marché avec Jésus, ils avaient écouté Jésus, ils avaient vu, ils avaient observé, ils avaient vécu beaucoup de choses. Ils avaient même fait des miracles en son nom. Cependant, Jésus dit à Pierre une chose qui peut nous surprendre. En quelque sorte, il lui dit, tu n'es pas converti. Il lui dit, quand tu seras converti, hein, tu affermiras tes frères. Arrivé à ce point-là de sa vie, Jésus lui dit cette chose terrible. Quand tu seras converti, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Cribler. J'ai regardé dans le dictionnaire ce que ça signifie, cribler. Parce que moi, quand j'étais petit, j'avais un criblet. J'allais au bac à sable, c'était un petit machin en plastique vert, je me souviens, avec des petits trous-trous. Alors, on mettait du sable, plein de fourbis, il y avait des cailloux, il y avait des papiers bonbons. Et puis alors, on criblait, c'est-à-dire on secouait le petit crible, et puis le sable pur tombait par les petits trous, et tout ce qui n'était pas bien restait dans le criblet. C'est suisse, ça, criblet. Vous connaissez le mot criblet? Non. Oh. Un tamis, oui, ben c'est pas juste. Il y a un mot, c'est criblet. Un crible, vous êtes criblé. Hein? Pourquoi tamis? Hein, savoir tamis. Oh, c'est français. Vous avez inventé un nouveau mot. Le vrai mot, c'est criblet. Après avoir vécu avec Jésus, après avoir persévéré dans ses épreuves, voilà encore un problème. Satan vous a réclamé pour vous secouer. Voilà ce que ça veut dire être criblé. Ça veut dire être secoué. Mais ça veut pas seulement dire être secoué. Ça veut dire aussi être percé de nombreux trous. Vous allez être criblé de balles. Vous rappelez le mot? Vous allez être percé de nombreux trous. Il y a encore une autre signification. C'est pas moi qui l'invente. C'est le dictionnaire qui dit, vous allez être couvert de marques. Des bleus, quoi. Vous allez être couvert d'ecchymoses, de cicatrices. Voilà ce que c'est que de cribler une personne. Et Satan se présente donc devant Dieu, comme au temps de Job. Et vous pensez que c'est fini, qu'il ne le fait plus? Vous pensez qu'il fait plus à vous? Bien sûr qu'il le fait encore. Il se présente devant Dieu, comme au temps de Job, et il vous réclame. Pourquoi? Pour vous transpercer, pour vous secouer, pour vous couvrir de marques, pour vous rouer de coups. Et qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit, oh, quelle horreur, non, 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 non. Non, il ne dit pas ça. Il dit, ok, vas-y, parce qu'il a foi en vous. S'il vous demande d'avoir foi en lui, c'est parce qu'il a foi en vous. C'est réciproque, il ne vous demande pas de faire une chose qu'il ne fait pas lui-même. Vas-y, ok, vas-y. Et les 11 ont vraiment été secoués quand ils ont vu Jésus arrêté, quand ils ont vu qu'il ne se défendait pas, qu'il était flagellé, quand ils ont vu qu'ils ont réussi même à le clouer sur la croix. Jusqu'au dernier moment, ils ont espéré qu'il allait sauter en bas de cette croix et pulvériser les Romains, les religieux. Non, pas du tout, il est mort. Il est enterré. On ne pensait pas qu'ils ont été transpercés, là, de voir cela. Leur maître, littéralement massacré. Ils ont été transpercés de voir leur rêve, parce que c'était un rêve extraordinaire. Ils pensaient que c'était, là, voilà, ça allait, enfin, le royaume de Dieu allait s'établir sur la terre. La corruption satanique, diabolique, religieuse et politique, financière allait être terminée. Jésus était là, le Fils de Dieu était là. C'est merveilleux. Leur rêve fantastique s'est tourné en cauchemar. Vous pensez pas qu'ils ont été transpercés, roués de coups? Leur beau projet ruiné, leur espérance détruite, si violemment secouée, massacrée, transpercée, marquée au fer. Oui, marquée, parce que les coups du diable, là, toute leur vie, ils ont eu les marques. Toute leur vie, ils ont porté en eux, sur eux, les marques de souffrance intense qu'ils ont reçues là, pendant ces horribles journées. Nous aussi, on a des cicatrices. Vous n'avez pas de cicatrices, vous? Bien sûr qu'on a des cicatrices. Bien sûr, les 11 ont été criblés d'une façon particulière, c'est leur histoire. Mais vous, vous serez aussi criblés. Vous avez été criblés, vous êtes peut-être criblés en ce moment. Cependant, vous serez criblés, secoués, transpercés, marqués, parce que c'est la volonté de Dieu. Vous allez me dire, mais c'est le diable qui a décidé. Non, Si le diable avait dit, si Dieu avait dit non au diable, il n'aurait pas pu le faire, mais il le fait. Parce que Dieu a dit, ok, vas-y, parce que pourquoi? Parce que Dieu a confiance en vous et veut vous mener quelque part. Mais pourquoi, Seigneur? Mais mon Dieu, mais pourquoi? Pourquoi moi? Ah ben, je te le dis, mon frère, je te le dis, ma sœur, arrête d'être bête. Ne cherche pas pourquoi. Ne t'inquiète pas du pourquoi. Garde les yeux fixés sur la promesse de Jésus. Tu seras criblé, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. C'est ça qu'il faut regarder. C'est pas pourquoi. Bien sûr que ça nous vient tout de suite au cœur et aux lèvres, le pourquoi. Mais pourquoi? Jésus lui-même, quand il était crucifié, il a posé cette question. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, c'est normal. Ce mot dans la bouche de Jésus, excusez-moi, il y a une petite faute là, dans mes pages. Il ne faut pas avoir peur. J'ai mélangé mes pages, c'est pas grave. Il ne faut pas avoir peur de ce qui nous arrive, de cette tempête, de cette fournaise qui nous arrive. Tout ça est contrôlé par Dieu, il ne faut pas le craindre. Et Jésus lui dit, quand tu auras passé tout ça, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Ces mots dans la bouche de Jésus, ça n'a pas du tout le même sens que pour nous les chrétiens évangéliques d'aujourd'hui. Parce que pour nous, on pense que quelqu'un qui se convertit, c'est quelqu'un qui est païen, incroyant, pécheur, tout ça. Et puis, il se convertit, il vient à Jésus. Pensez-vous que vous êtes plus converti, vous, maintenant, que vous vous êtes repenti, que vous avez été trempé dans l'eau au nom de Jésus, que vous avez marché en communauté, toutes ces choses-là. Est-ce que vous pensez que vous êtes plus converti, vous, que Pierre ne l'était au moment où Jésus a dit ça? Non. En tout cas, moi, humblement, j'oserais pas dire que je suis plus converti que Pierre ne l'était à ce moment-là. Et pourtant, Jésus lui dit quand tu seras converti. Pierre était converti. Il était un disciple. Il était un adhérent à la cause de Jésus. Pierre, c'était un engagé moral, spirituel, physique. Il s'était engagé corps, âme, esprit pour la personne de Jésus, pour la cause de Jésus. Mais Pierre allait être criblé, secoué si fort, percé si brutalement que finalement il allait s'éloigner un peu. La Bible nous dit qu'il suivait Jésus de loin quand il était arrêté. Il marchait derrière, il se tenait dans l'ombre. Et même, il a terminé en reniant le Seigneur Jésus-Christ 3 fois. Est-ce qu'il avait perdu la foi? Non, mes frères et sœurs, il était épouvanté. On a le droit d'être épouvanté quand on est criblé. On a le droit d'avoir l'impression de perdre pied quand on est criblé. Quand on est meurtri comme il l'était, blessé comme il l'était, c'est normal de se sentir mal. Il se tenait dans cette souffrance, désemparé par tout ce qui lui arrivait. Mais au travers de ce tsunami épouvantable qui lui arrivait, il se souvenait du regard de Jésus, il se souvenait de ces douces paroles de Jésus qui lui a dit « Mais Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Il s'en souvenait comme d'un petit écho au fond de sa conscience. Et mes frères et sœurs, c'est dans les paroles de Jésus que vous devez aller chercher votre consolation. C'est pas à gauche, à droite, dans toutes sortes de trucs et de machins et d'espèces de reconnaissance de la part des uns et des autres. C'est pas ça qui va vous donner une paix. Non, c'est pas ça. C'est dans les paroles de Jésus. Dans les paroles de Jésus que vous allez trouver votre point d'appui dans la tempête qui fait rage dans votre vie, qui vous secoue, qui vous transperce le cœur et qui vous crible. C'est dans les paroles de Jésus. Voilà pourquoi on vous dit, lisez les Écritures, méditez les Écritures, quand ça va bien, quand ça va mal. Beaucoup de gens lisent les Écritures quand ça va mal, ils cherchent une solution dedans, c'est un peu tard. Il faut lire déjà avant, il faut se remplir des choses de Dieu, se remplir des paroles de Dieu. Alors, quand ça va mal, elles nous reviennent à la mémoire. Jésus a dit, Pierre, Satan va te cribler, mais n'aie pas peur. J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Pensez-vous que les prières de Jésus ne sont jamais exaucées? Elles sont toujours exaucées. Jésus dit en réalité, non pas quand tu seras converti, comme on l'entend aujourd'hui dans nos milieux évangéliques, mais il lui dit, en vérité, quand tu seras revenu à moi. » Il s'est éloigné un peu. « Mais quand tu seras revenu à moi. » Plusieurs versions disent ça. La Tob dit ça. La Bible en français courant dit ça. La Bible Darby dit ça aussi. Il y a beaucoup d'autres, ça c'est parmi les principales. La meilleure version c'est « Le jour où tu seras revenu sur le bon chemin, sois le soutien de tes frères, fortifie-les dans la foi. » Oui, ce Jésus qui sait tout, savait que Pierre allait vivre un moment terrible. De même, il sait que vous vivez ou que vous allez vivre quelque chose de terrible. Mais il savait aussi qu'après avoir été secoué, même qu'il le renierait, mais qu'il se reprendrait et qu'il serait même au point de pouvoir affermir les autres. Mes frères et sœurs, qui ose douter que ce sont les prières de Jésus qui ont fait que la vie de Pierre a pu reprendre son cours? C'est les prières de Jésus. Et Jésus prie encore pour vous. Nous savons que Jésus prie pour nous. Nous savons qu'il est mort, nous savons qu'il est ressuscité, nous savons qu'il est à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. C'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, verset 34. Il prie pour vous. Si Jésus prie pour vous, il est toujours exaucé. Amen. Il est toujours exaucé. Alors, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? C'est ce que Paul dit dans les Romains. Il dit rien ni personne. Ça peut vous transpercer, ça peut vous cribler, ça peut vous marquer, ça peut vous secouer, ça peut faire que vous allez marcher un peu en arrière pendant un moment, mais vous allez quand même marcher. Et puis vous allez aller dans l'ombre de la cour, là où il y a tous ces païens, ces méchants, et puis vous allez peut-être même renier, mais quand même au fond de votre cœur, vous pleurez amèrement, et puis vous vous souvenez, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi. Alors s'il a prié pour moi, il va être exaucé et je vais pouvoir me convertir, c'est-à-dire je vais pouvoir retourner sur le bon chemin, je vais pouvoir revenir. Et mes frères et sœurs, Pierre termine en disant, voyez, nous sommes plus que vainqueurs grâce à ces prières. Paul, qui écrivait ce chapitre 8 aux Romains, disait, j'ai l'assurance que... rien ne peut nous séparer. J'ai l'assurance. Et pourtant, il en a vu des histoires, lui. Il en a eu des criblages, lui. Alors, il se peut que vous soyez criblé en ce moment même ou que vous le soyez dans quelque temps. Ne cherchez pas pourquoi. Souvenez-vous bien de ce que je vous dis. Ne cherchez pas pourquoi. Cherchez à persévérer dans votre foi, à regarder à Jésus qui prie pour vous. C'est ça que vous devez faire. Et observez comment le cribleur va devoir lâcher prise. Regardez. Comment le cribleur va devoir lâcher prise parce que Jésus prie pour vous. C'est un beau spectacle de voir comment le cribleur est obligé d'arrêter. Que nous dit Jésus aujourd'hui, en ce début d'année? Eh bien, il nous dit, voyez le panneau triptyque. Vous avez vu, Igor m'a offert un triptyque magnifique pour Noël. Mais il dit, Jésus là, regardez le panneau, non pas d'Igor, mais le panneau du triptyque de la déloyauté humaine dans ce chapitre. Regardez, premièrement, cela évoque la trahison de Judas. Deuxièmement, l'ambition crétine des disciples. Et troisièmement, la faiblesse de Pierre, pour ne pas dire sa lâcheté, mais je n'oserais pas dire ça parce que j'aurais l'impression de lui jeter la pierre. Et je suis très 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 mal placé pour ça. Mais Jésus nous montre son amour pour Pierre. Et quand il nous montre son amour pour Pierre, il nous le montre pour nous. Regardez comment il lui parle. Il est là, il dit, Simon, Simon, deux fois, Simone, Simone, Jean, Jean, Philippe, Philippe, deux fois, Simon, Simon. Ainsi, il veut donner du relief. Il veut donner du relief à son amour pour ce disciple qui est sur le point de chanceler. Il ne le sait même pas encore, mais il est sur le point de chanceler. Il est à 2h moins le quart de chanceler. Il ne le sait pas encore, mais Jésus, lui, il sait tout. Simon, Simon, j'ai prié pour toi. Je t'appelle par ton nom. J'ai prié pour toi. Et quand tu auras retrouvé ta paix, quand tu auras retrouvé ton équilibre qui semble... Eh bien, tu reviendras. Tu reviendras. Et sur le bon chemin, et quand tu seras sur le bon chemin, j'ai encore du boulot pour toi. Je ne vais pas te virer comme les religieux virent, n'est-ce pas? Non, je ne te vire pas, parce que moi je sais tout. Et j'aurai encore du travail pour toi. Ça, c'est notre espérance personnelle. C'est notre espérance pour tous les chrétiens authentiques. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Laissez Jésus faire. Mettez-vous de son côté et prions. Prions. J'ai encore du travail pour toi. Vois-tu mon frère, vois-tu ma sœur, quand tout semble fini, ben c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Maintenant, Jésus-Christ vit en toi. Jésus-Christ prie pour toi. Mais question, comme il est en toi, est-ce qu'il prie au travers de toi pour ceux qui sont criblés ou qui vont l'être? Le laissez-vous prier dans la langue de l'Esprit pour ceux qui sont criblés en ce moment? Nos soi-disant épreuves, mes frères et sœurs, sont celles de Jésus. C'est lui qui est criblé en nous. C'est lui qui est percé en nous. C'est lui qui est marqué en nous. C'est pourquoi Paul disait, les marques de Jésus, je les porte dans mon corps. Galates 6, 17, on va le lire. J'ai entendu un théologien dératé qui disait que l'apôtre Paul se prenait pour Jésus parce qu'il avait dit cela. C'est complètement absurde. C'est quelqu'un qui n'a rien compris à l'Esprit de Dieu et qui est bloqué. Galates 6, 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Eh bien, mes frères et sœurs, il n'est pas seul à porter les marques de Jésus. Il disait, vous voyez, je porte les marques de Jésus comme vous. Il disait à ses frères, alors arrêtez de me faire de la peine, je suis comme vous. Je suis comme vous. Arrêtez de me faire de la peine. Je n'ai pas besoin de ça. Que le diable me crible, ok, d'accord. Que les païens me criblent, ok, d'accord. Que les gens de ma famille me criblent, bon, d'accord, c'est dans la logique des choses. Mais pas vous, frères et sœurs, faites-moi pas de peine. J'ai déjà les marques de Jésus, ça suffit, je n'ai pas besoin d'avoir des coups bêtes et méchants. Au contraire, laissez Jésus qui est en vous me bénir, laissez Jésus qui est en vous me soulager, laissez Jésus qui est en vous m'encourager et me fortifier. Laissez Jésus qui est en vous prier pour moi. Amen. Voilà ce que ce message du premier, le premier message de l'année, vient dans votre cœur pour cela. Pour vous souvenir que vous n'êtes pas rien, vous êtes en train de porter les souffrances qui manquent à celles de Christ, les coups qu'il n'a pas eu, c'est vous qui les prenez. Mais en fait, c'est lui qui vient en vous, c'est lui qui les prend. Et si vous persévérez, il dispose du royaume pour vous. Et ce royaume vient, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le moment de lâcher, ça serait vraiment bête. Que Dieu vous aide. Amen. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Aide-les à se remplir de cette grande espérance que tu es celui qui intercède pour nous, qui voit toute chose, qui sait toute chose, et qui nous adresse encore cette parole ce matin en nous appelant par notre propre prénom. Merci Jésus de cet encouragement. Merci Jésus. Ça nous aidera à aller encore plus loin dans cette année en marchant fidèlement et en portant, persévérant dans tes épreuves. Nous respectons tout à fait ton combat, nous l'aimons et nous sommes contents de prendre des coups dans ce combat qui est le tien. Merci Jésus de l'honneur que tu nous fais de pouvoir être dans ce combat comme des soldats du roi des rois. Merci Jésus. Amen.